Les queues de Kalinao, un livre de Hubert Montéhier. Avertissement du traducteur. Ce codicille, on serait presque tenté d'écrire codicille comme caudal, au testament de Charles Robert Darwin, récemment rendu public selon les dernières volontés de son testateur, Magrath Smith and Magrath, solliciteur à Canterbury, apporte de l'avis unanime des critiques une prodigieuse contribution aux études darwiniennes qui se languissaient depuis trop longtemps déjà dans une honorable routine. C'est dire avec quel scrupule nous nous sommes efforcés non seulement de donner au lecteur la précise traduction à laquelle il a le droit, mais encore de rendre en français d'aujourd'hui les élégances, les pudeurs un peu surannées de l'anglais victorien, sans pourtant reculer devant le mot cru ou trivial chaque fois que Darwin lui-même avait jugé bon de l'employer. Avec ses qualités et ses défauts, notre modeste traduction a fait revivre un Darwin bien connu, cet hypersensible aventurier de l'esprit qui a réussi, par un curieux mélange d'imagination et de labeur, à remodeler les préjugés de son siècle et même du nôtre. Elle fait revivre aussi l'honnête homme qui ne pouvait se résigner à mourir sans passer des aveux complets. Darwin s'est suffisamment trahi dans cette confession pour que nous puissions espérer ne pas l'avoir trahi davantage. Codicille à ouvrir le 1er janvier 1980. Down, ce 20 décembre 1880. Fils et petit-fils de médecin, j'étais prédestiné à la médecine. Mon évidente vocation était de succéder un jour à mon père et de reprendre sa clientèle de Shrewsbury, où nous possédions depuis des générations l'un des cabinets les plus prospères et les plus réputés du Shropshire. Effectivement, après m'être intéressé à la conciliologie, à la numismatique, à la sigillographie aux franchises postales, à la biologie des végétaux, à la minéralogie, à l'entomologie, à l'ornithologie, à l'art des jardins, à la poésie lyrique, à la peinture de paysages, mais surtout à la chimie expérimentale, je commençais en 1825 des études de médecine à la faculté réputée d'Édimbourg. J'avais 16 ans. La façon dont les enfants d'aujourd'hui perdent leur temps me déconcerte. Sans doute, la fortune dont je devais hériter de toute façon me dissuadait-elle de travailler avec frénésie, et il est exact que certains aspects de la médecine, en particulier les malades et les cadavres qui s'ensuivaient, ont déçu ma sensibilité frémissante. Je suis ainsi construit que les images m'impressionnent à peine moins fort que les idées. Toutefois, ces considérations banales n'expliquent nullement que j'ai abandonné la faculté d'Édimbourg dès 1828 pour m'inscrire au Christ College de Cambridge, où j'ai reçu durant 3 ans une formation de digne clergyman et dont je suis sorti bachelier S.R. À moins d'être malhonnête, on n'envisage point une carrière de clergyman sans avoir la foi. Et cette foi subite, ce n'était pas les Écossais qui m'en avaient fait cadeau. Après l'agnosticisme, la foi est le bien le plus précieux, et les Écossais le dissipent avec parcimonie. Que Cambridge m'ait finalement laissé sans foi, mais avec quelques lois, cela est une autre affaire. D'excellents amis comme Laye, Lubbock ou Huxley se sont montrés discrètement surpris par cet étrange tournant de mon existence que rien apparemment ne laissait prévoir, et je gage que mes biographes en seront également intrigués. À la suite de quel choc, de quelle crise morale étais-je très provisoirement passé de la médecine des corps à celle des âmes, du mal connu à l'inconnu? Pour répondre à cette question, et à quelques autres, je dois remonter jusqu'au bien lointain dimanche 9 septembre de l'an de grâce 1827. Quel bond dans le passé pour le rhumatisant que je suis devenu! Mais il me souvient mieux de 1827 que de l'année dernière. Tel est le privilège du grand âge. Plus on se rapproche de la tombe, plus vivement les années ensoleillées de la jeunesse reviennent. Chapitre 1. En ce début de septembre 1827, interrompant pour quelques jours mes vacances familiales de Shrewsbury, j'avais fait un saut à Londres pour visiter des taxidermistes, enrichir ma bibliothèque d'ouvrages de chimie et fréquenter le British Museum, qui était devenu depuis 1753 l'un des lieux les plus intéressants de la planète, un merveilleux voyage immobile à travers l'espace et le temps. Je me suis attardé dans la capitale et le dimanche 9, j'étais toujours là, parfaitement désœuvré, situation qui me donnait l'insupportable fourmillement entre les oreilles et sous la plante des pieds. Les dimanches anglais de 1827 étaient presque aussi lugubres que ceux d'aujourd'hui. Quand Dieu repose, l'homme s'ennuie. Ce jour-là, les chiens eux-mêmes n'osaient se flairer, les tourterelles se fuyaient et les singes de la ménagerie s'abstenaient de toute attitude, peut-être de toute pensée. Vers la fin de l'après-midi, écrasé d'inaction, je me laissai entraîner par un cocher vers l'attraction du moment, la couronne. Vaisseau amiral de Codrington, venu mouiller devant le Tilbury pour compléter en hâte ses approvisionnements et son équipage avant de faire voile vers la Grèce ensanglantée. La couronne devait appareiller dans la nuit, à l'heure du clair de lune. Je rappelle que nous étions à cette date entre un ministère Canning et un ministère Wellington, et que la politique anglaise, dans le dédale des affaires d'Orient, paraissait moins claire que jamais. À première vue, le cabinet de Londres, de concert avec ses alliés français et russes, soutenait les Grecs révoltés contre les Turcs, encouragés par une opinion publique philhellène. À vue seconde, le grand souci des responsables perspicaces qui tenaient les descendants d'Achille pour une racaille digne du pal et les Ottomans pour des sauvages sans entrailles était de donner hypocritement la main au tsar pour le mieux paralyser et lui interdire l'accès des détroits dont il rêvait au milieu de ses oukases. Ainsi, le vaillant Codrington partait-il sur les traces du défunt Byron afin de protéger les Grecs contre les Turcs, mais aussi les Turcs contre les Russes, ce qui était bien compliqué pour une cervelle de militaire. Une telle ambiguïté allait se révéler néfaste. Lorsque j'arrivai sur les quais du populaire et crasseux avant-port de Tilbury, où il y avait foule des dimanches, un beau soleil d'été se couchait sur la couronne, ancré à moins d'une encablure, tandis que s'allumaient au loin les lumières de Gravesend sur la rive opposée de la Tamise. C'était la première fois que j'avais l'occasion de contempler de si près un grand vaisseau de guerre et le spectacle était saisissant de beauté. On eût dit d'une marine de Turner. Je soupçonnais Turner de brosser ses levers de soleil à l'instant du coucher pour s'épargner la peine de se lever tôt le matin. Et j'ai été ravi d'avoir enfin la preuve sous mes yeux d'un Turner indiscutable. La couronne était un trois-ponts de premier rang auquel on avait laissé, peut-être parce qu'il s'agissait d'un vétéran d'Aboukir, sa sévère robe bicolore de style nelsonien, ses bandes ocre jaune sur fond noir à hauteur de la triple rangée de sa bord. Dans le soleil déclinant, flamboyé des dorures de poupe, luisait encore à la flottaison la frange d'œuvre vive, doublée et chevillée de cuivre, qui allait s'engloutir au fur et à mesure que le va-et-vient constant des chaloupes ravitailleuses lasterait les cales et les soutes. Un quidam bavard et indiscret, affligé d'un invraisemblable pantalon à carreaux, mais visiblement passionné des choses de la mer, m'apprit sans se faire prier que la couronne avait été lancée à Chatham en 1796, qu'elle venait d'être refondue et dotée d'une poupe arrondie à deux balcons ouverts sur les plans de Sir Robert Sepping, notre plus éminent architecte naval, que sa construction avait exigé une forêt de 7000 troncs d'arbres, que ses canons crachaient une double bordée de 3840 livres, que le lest permanent des fonds, indispensable à la stabilité, comportait 1100 quintaux de ferraille et 3200 quintaux de galets, que l'équipage était de 900 hommes. aucune poésie ne résiste à de pareils chiffres. Cependant, était intéressant l'autre tendance de ma personnalité, avide de toute connaissance concrète et précise. Je me déclarai surpris, entre autres, par l'importance de l'équipage, et mon quidam m'expliqua fort clairement le fait. L'équipage de la couronne était de 900 hommes, pour la bonne raison que, sur un vaisseau de 2800 tonneaux, on ne pouvait en entasser davantage. Et ce chiffre de 900 était malgré tout insuffisant pour le service du temps de guerre. En effet, selon la théorie communément admise dans la marine anglaise, il aurait fallu 13 servants pour la manœuvre en 14 temps d'une pièce en fonte de 32 du poids de 5400 livres, soit 1560 artilleurs, puisque les 110 canons de la couronne avaient été portés à 120 et unifiés à ce calibre de 32 lors de la récente fonte, il y avait toujours déficit, plus ou moins accusé de personnel. En temps de paix, les vaisseaux recevaient un encadrement de canonniers expérimentés. En temps de guerre, on complétait les effectifs par une foule de canonniers d'occasion, après avoir grossi le nombre des matelots de manœuvre et embarqué, en vue d'éventuels abordages, un important contingent de fusillés en habits rouges. Mais cet effectif élastique de canonniers, que l'on s'efforçait alors de pousser à la limite du surpeuplement, il n'était pas facile de le réunir. Et jusqu'à l'instant de l'appareillage, on racolait comme autrefois dans chaque port du royaume tout ce qui voulait bien se présenter ou se laisser prendre.
Allez, allez, par ici, mon saillant.
Ces complaisants détails, qui n'avaient pas l'air de me concerner, charmaient mon esprit curieux et faisaient toujours passer le temps. La couronne n'était plus qu'une grande silhouette fantomatique sur fond de pourpre entre Gravesend et Tilbury, quand l'amiral Codrington, grisonnant, chamarré et un peu vacillant, soutenu par deux jeunes officiers au visage de briques cuites, émergea de la baleine de Jonas pour franchir à pas mesurés la courte distance séparant le célèbre pub du canot ouvragé et doré qui devait le ramener à son bord. À cette apparition martiale, la foule mélangée qui se pressait sur le quai donna soudain libre cours à un enthousiasme d'autant plus belliqueux qu'elle pouvait compter rester sur place.
Vive le capitaine !
La cause de la Grèce immortelle était chère à bien des cœurs, et même à bien des esprits anglais ou étrangers qui ne comprenaient point que, dès qu'un pays est immortel, ce n'est pas la peine de se fatiguer à le faire vivre. Il sera sans cesse inférieur à sa réputation. Dandy décavé et fille entretenue, portefaix et harangère, filélène et pickpocket, tout le monde poussait des hurrahs où, parmi les poussillons, semblait vibrer quelque chose de l'âme mouillée d'embrun de la vieille Angleterre. Pris dans le mouvement qui convergeait sur Codrington, coudoyé, bousculé, séparé de mon quidam, je me retrouvais entouré de Grecs qui hurlaient encore plus fort que les autres en l'honneur du libérateur présumé de leurs compatriotes. Piqué de contagion, je m'égosillais à mon tour, en dépit d'une éducation résolument pacifique au sein d'un milieu wing, universitaire et cultivé. Codrington embarqué. J'avais perdu mon chapeau et on m'avait libéré de ma montre en or. C'est ainsi que les jeunes gens font l'apprentissage de la sagesse. La chaleur était encore lourde et j'éprouvais le besoin de me rafraîchir avant de regagner ma chambre confortable de la cité. Fendant la foule qui se dissipait lentement, j'allais m'asseoir dans un recoin de la baleine de Jonas devant une fenêtre qui regardait le fleuve et ses navires. Je revois, à travers les petites vitres cerclées de plomb, les feux qui s'étaient allumés à bord de la couronne, des brillants salons de la poupe où Sir Edward Codrington devait fêter son départ aux lueurs tremblotantes qui ponctuaient jusqu'à la proue le reste du bâtiment, humble signe de vie de ceux qui n'avaient rien à fêter. Je revois aussi la grande salle enfumée et bruyante de la baleine, telle une gueule prête à m'engloutir. Élevée à Shrewsbury, dans une atmosphère provinciale de sérieux et de dignité, dans une sorte de puritanisme souriant où les contraintes semblaient toutes naturelles et commandées par la sagesse des nations, j'étais parvenu à l'âge de 18 ans, sans la moindre expérience de la boisson et des filles, si l'on excepte les cadavres de la salle de dissection dont le poil me hérissait plus tôt. Même à Édimbourg, j'avais évité toute imprudence grave, et les étudiants débauchés m'avaient inspiré plus de répulsion que d'envie. J'étais par conséquent fort vulnérable à de sournois et mauvais procédés de la part de gredins qui n'en étaient pas à leur coup d'essai et auraient vendu leur frère pour une pincée de tabac. Je me rappelle avoir bu une pinte d'ale. À partir de là, mes souvenirs se brouillent. D'après ce que j'ai pu reconstituer de l'événement, à en juger par des bribes de souvenirs et surtout par les conséquences, une personne du sexe m'a fait boire plus que de raison, m'a entraîné dans un réduit où j'ai bu davantage encore, au point de quitter mes simples vêtements bourgeois. La question, sans importance, m'a longtemps poursuivi de savoir si j'avais ou non usé des charmes de la demoiselle. Ce qui est certain, c'est que son protecteur m'a volé ma bourse et m'a livré ivre-mort et en loque au recrutement de l'amirauté. Il faut croire que, dans cet état, la qualité de mon origine et de mon éducation ne se lisait point sur mon visage. Monnaie courante au siècle précédent, ce tour classique tombait en désuétude. J'ai joué de malheur.